Alors, chers amis, pour ne pas avoir à y revenir, je vais vous indiquer quelles sont les dates que j'ai pu retenir avec la directrice de la maison qui est heureuse de nous accueillir encore, si le Seigneur n'est pas venu, dans l'année prochaine. Nous l'attendons aujourd'hui, mais nous devons faire comme s'il ne revient que demain. Alors, nous vivons dans cette attente. Je vous l'ai dit, ces dates, vous n'êtes pas obligé d'y venir. C'est seulement si vous avez le désir et vous savez ce que l'on fait ici. Du 14 au 16 juin. Donc, on a pu avoir cette date en été. Et le lieu est très beau en été. Ceux qui se souviennent du mois de juin l'année dernière avaient été très heureux d'être ici dans cette période. Puis, le 11 au 13 octobre, la seconde retraite que j'ai pu réserver, cette place pour 90 chaque fois, et du 15 au 17 novembre. C'est les seules dates qui étaient libres et qu'on pouvait réserver. Alors je l'ai fait dans la foi. Quant au thème, vous saurez ça plus tard. Est-ce que nous pourrions commencer par un cantique, peut-être? Ô Dieu, nous nous tenons devant toi. Toi qui nous as tellement aimés, et qui nous l'a prouvé en nous donnant ton unique, ton fils, ton bien-aimé, celui qui était dans ton sein de toute éternité. C'est lui que tu as envoyé. Et nous voudrions t'adorer pour ton don ineffable et te demander que cette heure que nous passons encore ensemble soit une heure bénie, parce que nous sommes autour de celui qui a fait les délices de Dieu de toute éternité. Et tu as voulu que nous trouvions en lui le bonheur que toi tu as toi-même. Et nous voudrions saisir en ce moment que nous pouvons être sur cette terre même heureux du bonheur de Dieu. Oh, qu'il en soit ainsi, et que les jours au-devant desquels nous allons soient remplis de cette bénédiction, de cette joie, de cette paix que nous avons chantée, parce que nous savons que nous sommes sauvés. Ce n'est pas un sentiment, c'est un fait, et nous t'adorons pour ce fait que rien ne peut défaire. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Eh bien, mes amis bien-aimés, nous sommes réunis en cercle, en quelque sorte, parce que nous voudrions que ce soit vraiment le Seigneur qui soit au centre de cette dernière rencontre. Mais nous avons à terminer notre épître aux Thessaloniciens que nous n'avons fait qu'ébaucher, quoique nous ayons lu plusieurs fois les mêmes textes. Mais nous sommes bien conscients qu'il y aurait une foule d'autres choses à considérer et que nous n'avons pas pu le faire parce que nous sommes limités dans le temps et aussi dans nos capacités, mais nous comptons sur le Saint-Esprit. Et nous allons lire maintenant les versets 5, à partir du verset 12 au verset 28e. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent, et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Or, nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon et entre vous et à l'égard de tous les hommes. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur que la lettre soit lue à tous les saints frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je vous ai fait cette lecture dans la version que nous avons déjà employée ce matin. Mais puisque la plupart d'entre vous avaient la version second, nous commenterons ces passages dans la version seconde. Dans les versets que nous venons de lire, nous trouvons donc les dernières exhortations, les vœux et les salutations de Paul aux Thessaloniciens. C'est la fin de sa lettre. Et je pense que vous vous souvenez quelle est la vérité essentielle que nous avons découvert dans cette lettre. De quoi l'apôtre parle-t-il le plus? Quelle est la vérité centrale? Comme nous vous disions que la vérité centrale de l'Épître aux Romains, c'est la justification par la foi. La vérité centrale qui nous a occupés ici, c'est quoi? La venue du Seigneur. Dans chaque chapitre, n'est-ce pas, il est parlé de cette venue. Et je pense que vous vous souvenez de ces versets, je les résume simplement. Dans le premier chapitre, on est converti à Dieu, les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu, détournés des idoles en vue de servir le Dieu vivant et vrai et d'attendre des cieux son Fils. Donc, la venue du Seigneur fait de nous, une fois qu'on en a connaissance, des hommes de l'attente. Nous vivons dans une attente. Et quelle est cette attente? Ce n'est pas la mort, c'est le retour du Seigneur qui revient d'où? Là où il est, dans le ciel. Et que fait-il dans le ciel maintenant? Il intercède pour nous. C'est quelque chose de merveilleux. Et lui, il est toujours exaucé par le Père. Quand des gens viennent vous dire qu'ils ne prient plus pour vous, eh bien c'est bien malheureux, mais au fond, il y en a un qui prie toujours pour vous et qui est toujours exaucé. Alors, réjouissons-nous, même si on nous oublie, même si on ne prie plus pour nous, le Seigneur ne nous oublie pas. Et si vous voulez savoir ce qu'il fait dans le ciel, je vous inviterai alors à lire, ça pourrait être un nouveau sujet de retraite, l'Épître aux Hébreux. C'est dans l'Épître aux Hébreux qu'on apprend à savoir ce que le Seigneur fait dans le ciel en attendant qu'il revienne. Il nous prépare une place, mais il intercède devant le Père pour nous. Il est notre souverain sacrificateur qui nous porte sur son cœur et aussi sur ses fortes épaules, comme le sacrificateur du temps de Moïse avait sur son cœur les pierres précieuses sur lesquelles se trouvait gravé le nom des 12 tribus d'Israël. Il les portait sur son cœur devant Dieu. Eh bien, le Seigneur nous porte sur son cœur devant son Père. Vous êtes l'objet des affections du Seigneur. Est-ce que vous êtes conscient que le Seigneur vous aime? Il n'est pas question de le sentir seulement, il est question de croire. Et quand on le croit, on l'éprouve. Eh bien, croyez que le Seigneur vous aime, non pas parce qu'il vous voit parfait, mais parce qu'il vous a rendu tel par son sacrifice. Et Dieu est tellement satisfait de l'œuvre de son Fils qu'il ne vous voit plus que dans les perfections de son Fils. Alors, détournez vos regards de ce que vous êtes, pas que sans ça vous êtes déprimé, hein, ou de vos propres progrès, mais regardez au Seigneur. Et en le regardant, en fixant Jésus dans ses perfections adorables, vous serez encouragé, vous serez fortifié. Ce n'est plus vous qui vivez pour Dieu, c'est le Christ qui vit en vous. N'est-ce pas merveilleux? Comme nos cœurs devraient être remplis de louanges. En avoir fini avec soi-même, c'est la délivrance. Or, il y a aujourd'hui toute espèce d'école qui vous plonge toujours en vous-même, et même qu'il faut aller chercher jusqu'à vos arrière-grands-pères, à vos arrière-grands-parents, n'est-ce pas, pour savoir pourquoi vous êtes malheureux aujourd'hui. Et c'est toujours la faute des autres. Et les gens courent pour se faire soigner, et puis ils n'ont jamais fini avec eux-mêmes. Quel bonheur! Avec Jésus, on en a fini. Sa mort est devenue notre mort. Il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui et nous en témoignons dans le baptême. Il est ressuscité. Nous sortons de ses eaux, nés de nouveau. Ce n'est pas le baptême en lui-même qui nous fait naître de nouveau. Mais nous donnons cette signification publique qu'à notre vie passée, nous en avons terminé. Et que maintenant, nous avons une vie cette vie nouvelle, c'est celle de Christ. Christ en nous, l'espérance de la joie. Alors, nous vivons maintenant en l'attendant. Le chapitre deuxième nous parle toujours aussi du retour du Seigneur. Et ce retour, on a lu au verset 19, ce retour est notre espérance et notre joie. Et puis, ça sera aussi notre couronne de gloire. Parce que quand le Seigneur sera venu, je ne pouvais pas tout vous dire ce matin, et que nous serons rencontrés dans les airs, nous avons vu qu'il nous prendra avec lui où ? Dans la maison du Père. Et là, nous comparaîtrons tous comme croyants devant le tribunal de Christ dans le ciel, non pas pour être jugés quant à nos âmes, puisque nous sommes passés de la mort à la vie, et que nous ne viendrons pas en jugement, mais au fond, quand il nous aura ravis, dans le ciel, ce sera les promotions, si vous voulez. C'est à ce moment-là que le Seigneur, nous ayant transformés, examinera ce qu'a été notre vie depuis notre conversion, et c'est pourquoi cette vie est capitale, la manière dont nous vivons ici-bas. Il examinera devant tous ce qu'a été notre vie maintenant que nous étions rachetés, et il donnera ses récompenses. Si vous avez pu vous occuper des autres, si vous avez pu vivre vraiment, dépréoccuper de vous-même, et entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez, eh bien, vous aurez été surpris que même quand vous avez donné un verre d'eau avec amour, c'est au Seigneur que vous l'avez donné, et lui ne l'oubliera pas. Alors, les croyants dont nous nous occupons seront à ce moment-là notre joie et notre couronne. Ce n'est pas à nous sur la terre de dire ce que nous avons fait. C'est lui qui a tout enregistré, qui dira devant tous, voilà ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi Paul dit que les Thessaloniciens seront sa joie et sa couronne. À quel moment ? Quand le Seigneur sera venu. De sorte que la venue du Seigneur nous apporte non pas de la détresse, de la crainte, mais une joie et une couronne. Si nous avons compris qu'il valait la peine de s'ouvrir avec lui pour régner aussi avec lui. Alors, dans le chapitre 3e, vous avez encore une fois cette venue du Seigneur. Verset 12e, c'est une prière que Paul fait aussi, je dirais depuis le verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de toute cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Car après le tribunal de Christ, quand tout aurait été réglé dans le ciel au sujet des œuvres des croyants, nous serons examinés au sujet de nos œuvres de croyants, non pas au sujet de nos âmes, parce que nous sommes sauvés. Ce sont des sauvés qui sont devant le tribunal de Christ. Mais nous devons prendre conscience que depuis que nous sommes sauvés, nous avons à vivre d'une manière digne du Seigneur. Et alors, quand il reviendra en gloire, avec tous ses saints, c'est à ce moment-là que le monde verra ce que nous avons été pour le Seigneur. C'est lui, à sa manifestation glorieuse, dans le monde où il apporte le jugement, qu'il manifestera que les saints qui ont supporté, qui ont souffert, qui ne se sont pas rebellés, qui ne se sont pas révoltés, mais qui ont rendu grâce pour toutes choses, parce que comme on va le voir, c'était la volonté de Dieu, eh bien, il y aura une immense bénédiction. De sorte que le retour du Seigneur dont il est parlé à chaque chapitre est une bénédiction. Elle ne devrait pas être un sujet d'angoisse. Ensuite, dans le chapitre 4, nous avons ces merveilleux versets qui nous ont occupés ce matin, qui sont notre consolation au sujet de ceux qui nous ont devancés, de ceux qui se sont endormis en Jésus et qui ne resteront pas en arrière, mais qui seront les premiers ressuscités au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, au cri de commandement. Ils ressuscitent premièrement et nous les vivants, nous sommes transformés dans des corps semblables au corps du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il opérera. Et il nous enlèvera, et nous serons alors, pour toujours, avec le Seigneur. C'est son but, c'est de nous avoir à jamais avec lui. Et enfin, ce que nous allons voir dans la fin du dernier chapitre, le Seigneur a tellement le désir de nous avoir tout entier pour lui, esprit, âme et corps, tel que son Père le désire, que c'est lui qui accomplira son œuvre de sanctification en nous, si, comme quelqu'un me l'a rappelé hier soir, on s'est attaché au Seigneur. J'ai beaucoup aimé cette pensée, quelqu'un me disait, j'ai compris que je devais être attaché au Seigneur. C'est beau. Si nous sommes attachés au Seigneur, bien qu'est-ce que le Seigneur fera? Il fera ce que j'ai dit si souvent, à l'exemple de Marie, servir le Seigneur, c'était se laisser faire par le Seigneur. C'est lui qui le fera. Marie, c'est le grand exemple qu'elle nous a donné, elle s'est laissée faire par le Seigneur. C'est ça le service. Elle a dit à l'ange, quand elle est devant cette impossibilité, comment ces choses peuvent-elles se faire? Et l'ange lui répond que tout est possible à Dieu. Alors elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est cela le service du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'il fasse en vous tout ce qu'il veut? C'est pas vous qui choisissez. Vous ne vous appartenez plus. Et alors, tout ce que Dieu voudra, vous le prenez de sa main. C'est lui qui l'accomplit. C'est merveilleux d'en avoir fini avec nous-mêmes et de pouvoir se dire, c'est toi, Seigneur, qui fais tout. Donne-moi d'être disponible et de céder toujours devant toi. Alors, après avoir découvert cette vérité centrale, merveilleuse du retour du Seigneur, nous avons maintenant, si nous connaissons ces vérités, des exhortations dans ces versets que nous venons de lire. Les versets 12 à 13 nous montrent quelle doit être notre attitude à l'égard de ceux qui nous enseignent et comment nous avons à vivre en paix entre nous. Avoir des égards, ou il est dit dans votre version, avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous, parce qu'enseigner c'est un travail aussi, qui nous dirigent dans le Seigneur. Ils ne nous dominent pas, mais ils nous dirigent. Ils sont des poteaux indicateurs. Mais ils n'asservissent pas les âmes. Et c'est une chose qui m'a souvent peiné de voir des frères qui veulent dominer les autres au lieu de se faire serviteurs des autres, les enseigner, se mettre plus bas qu'eux pour les diriger. Qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Eh bien, oui, acceptez la parole d'exhortation et ayez de la considération pour eux. Et beaucoup d'affection, lisez-vous au verset 13, à cause de leur œuvre. C'est pas une œuvre qui est récompensée sur la terre. Bien souvent, nous sommes incompris, mais si vous savez cela, eh bien, vous serez plein d'affection pour eux plutôt que plein de jugement. Et vous vivrez en paix. Soyez en paix entre vous. Et depuis le verset 14 à 15, dans ces versets sont soulignées les responsabilités que nous avons les uns envers les autres et à l'égard de tous les hommes. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez tous ceux qui vivent dans le désordre. Et dans l'épître suivante, nous voyons que ceux qui ne voulaient pas travailler parce qu'ils pensaient le Seigneur va venir, ben je n'ai plus besoin de travailler, ils vivaient dans le désordre. Car le Seigneur veut que nous soyons occupés jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, avertissons-les, consolez ceux qui sont abattus. Est-ce qu'il y a des personnes abattues? Eh bien, ce n'est pas en les morigénant que nous allons les aider. Nous devons les consoler. Alors nous devons dire au Seigneur, donne-moi une parole de consolation pour cette âme. Et vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire quand, peut-être 50 ans après qu'on a vu une personne tout à fait découragée, vous la retrouvez. Puis elle vous dit, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit il y a 50 ans? Je crois que non, je m'en souviens pas. Eh bien, c'est cette parole qui m'a sauvé. C'est cela que le Seigneur fait. Si vous êtes disponible, si vous vous mettez toujours à zéro, faut toujours se remettre à zéro. Vous me direz, mais c'est décourageant. Non. Quand vous êtes zéro, comme je l'ai dit souvent, et que l'unité vient devant le zéro, ça fait combien? 10. Mais si vous êtes conscient des deux zéros, quand l'unité vient devant, ça fait 100. Et si vous êtes conscient que vous êtes 6 zéros, c'est-à-dire zéro sur toute la ligne, quand l'unité vient devant, ça fait 1 million. Hein? C'est ça qui est merveilleux. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'alors, le Seigneur peut agir vraiment. Et le monde se rend compte que ce n'est pas sa puissance, ce n'est pas de lui que ça vient. Ça vient du Seigneur. Alors vous êtes déçus si on disait cela? Vous seriez déçus qu'on dise, mais ce qu'il y a chez lui ou chez elle, ça vient du Seigneur, ça vient pas de lui. Oh mais moi, alors moi, on m'oublie. Vous êtes enterré, chers amis. Enterré, alors ne vous déterrez pas. C'est pas beau. C'est pas du tout beau. On ne s'améliore pas sous terre. On le sait. Alors, nous avons fini avec cela, et puis nous allons de l'avant. Alors, demandons au Seigneur de pouvoir consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles. Vous voyez que peut-être hier on était un petit peu las d'entendre tous les rapports. Eh bien, fallait supporter. Supportons, parce que c'était quand même drôlement intéressant de savoir ce que le Seigneur vous avait montré. Alors ayons ce support, et puis, et si on trouve qu'il y a de la faiblesse, ou dans un exposé ou dans un autre, eh bien, sachons supporter. Et user de patience. Voilà la vie chrétienne. User de patience. Oh, mais moi, je suis impatient. Alors, c'est ma nature, parce que je l'ai hérité de mon père, de mon grand-père. Non. Vous êtes né de nouveau. Toute cette hérédité dont on vous parle, laissez cela de côté. Vous êtes mort. Alors, laissez de côté votre grand-père, votre grand-mère. Et toute cette enfance que vous avez eue, vous n'en sortez pas. Et puis, n'essayez pas de vous excuser avec ces choses. Quand on est au Seigneur, on ne cherche plus à s'excuser. On reconnaît la chose et on se condamne. C'est vrai. C'est comme ça qu'on est libéré. Ne cherchez pas des excuses. Ne vous excusez pas devant Dieu. Confessez vos péchés. Et prenez les responsabilités. Ne mettez pas les responsabilités sur les gènes de vos parents. Confessez vos péchés. C'est cela qu'il nous faut. Et alors, vous verrez une vraie délivrance. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, nous avons là nos responsabilités, non seulement à l'égard de nos frères, mais à l'égard de tous les hommes. Puis, vous avez les versets 16 à 18 qui forment un tout et qui nous rappellent ce que doit être notre conduite personnelle. Qu'est-ce que doit être notre conduite personnelle? C'est simple à se souvenir. Se réjouir toujours. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Se réjouir toujours. Soyez toujours joyeux. Alors, j'ai pris pour moi ça. J'ai à me réjouir toujours. Puis, deuxième exhortation qui doit caractériser ma conduite personnelle, prier sans cesse. Est-ce que ça veut dire que je passe une nuit de prière, puis je viens vous dire que j'ai passé une nuit de prière, puis une tête longue? Donc, mais non, quand on prie, on n'a pas la tête longue, puis on ne le dit pas. Hein. Parce que alors si c'est ça que ça vous fait, la nuit de prière, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'une nuit de prière, oui, c'est une nuit en collaboration avec le Seigneur, en tête-à-tête avec le Seigneur. Priez sans cesse. J'entends encore le professeur Karl Barth, que j'ai beaucoup aimé, professeur de théologie qui était persécuté par Hitler, qui disait, mais prier sans cesse, c'est avoir une vie ouverte à Dieu. C'est vrai, hein? Pour toute chose, on a tout de suite recours au Seigneur. C'est ça, c'est pas marmotter des prières, etc., ou rester sur nos genoux alors qu'on n'en peut plus, n'est-ce pas, ou bien s'appuyer contre la paroi pour ne pas tomber, comme le professeur, parce qu'elle pensait qu'il fallait qu'elle prie debout. Pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas prier couchée? Le Seigneur nous entend dans toutes les positions. Mais nous pensons toujours qu'il nous faut avoir certaines attitudes. Il y a des moments où vous sentez que vous devez être à genoux. Et il vous met à genoux. Parce que nous sentons que c'est là la vraie attitude. Je parlais à la sœur directrice tout à l'heure. Les premières fois que je venais ici, il y avait des prie-dieu dans toutes les chambres. Maintenant, il n'y était plus. Et j'avais fait cette découverte il y a bien des années, alors qu'il n'y avait que des catholiques qui se réunissaient ici. Et puis, j'étais le seul non-romain qui venait et qui avait des contacts avec ces personnes. Puis tout d'un coup, moi j'avais apprécié ce prie-dieu, parce que comme j'étais opéré du dos, ça me tenait droit. Hein. Et puis ma femme avait trouvé que c'était pas mal. Puis voilà, tout à coup, il n'y avait plus de prie-dieu. Alors j'ai dit à la sœur, qui était là il y a 20 ans, vous avez enlevé les prières, les prêtres ne veulent plus. Alors, évidemment, ils peuvent prier autrement, mais c'était très drôle. Alors, pensez que c'est un évangélique qui fait cette remarque. Le lendemain, j'avais le prie-dieu dans la chambre. Je n'avais pas besoin du prie-dieu pour prier, bien sûr, n'est-ce pas? Mais c'était évident que ça me redressait. Alors, ne nous achoppons pas à ces choses extérieures. Priez sans cesse, à tout moment, la nuit, le jour, ou sur la route, pas seulement dans la détresse. En toute chose, rendez grâce. Voilà la conduite du chrétien. Trois points. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, et puis, en toute chose, rendez grâce. Et que notre vie devrait être une vie de louange. Mais qu'est-ce qu'on entend chez les chrétiens? Toujours des plaintes. On se plaint de son sort, on a ceci, on a cela. Eh bien, reprenons tout cela, puisque le Seigneur vient en toutes choses en don grâce. Pourquoi? Car telle est la volonté de Dieu à notre égard. Vous voyez qu'on apprend à connaître la volonté de Dieu. Hein? Donc, nous avons compris maintenant que la volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous soyons toujours joyeux et que nous rendions grâce pour toute chose. C'est ça sa volonté. Oh, puissions-nous, à l'issue de cette retraite, garder cela dans nos cœurs comme règle de conduite. Alors nous serons bénis. Puis les versets 19 à 22 contiennent encore 5 exhortations relatives à l'attitude à prendre à l'égard des manifestations de l'Esprit dans la vie de l'Église. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne pas éteindre l'Esprit. Laissez la liberté de l'Esprit. Mais il faut que ce soit l'Esprit, hein, pas la chair. Ne pas mépriser les prophéties, mais les prophéties qui se tiennent en accord avec la parole. Comprenez-vous? Éprouver toute chose, ça ne veut pas dire aller partout, éprouver toute chose. Non, éprouver toute chose et retenez ce qui est bon. Ce n'est pas nécessaire d'aller partout, ce n'est pas cela. Mais éprouvez toute chose, ayez du discernement, et puis retenez ce qui est bon, vous serez maintenu dans un saint équilibre. C'est la quatrième chose, retenir ce qui est bon, pas être seulement critique pour les choses qu'on rejette. Et s'abstenir de toute forme de mal, hein? De toute forme de mal. Oh mais je ne fais pas de mal, mais le monde peut penser que je fais, ça a la forme du mal. Eh bien, abstenez-vous de toute forme de mal pour qu'on ne puisse pas juger le chrétien comme faisant du mal. Abstenez-vous de toute forme de mal. Et après avoir multiplié toutes ces instructions, vous voyez que Paul se tourne vers Dieu qui seul peut les rendre efficaces. Et c'est ça que je trouve merveilleux, cette prière qu'il fait. Cette merveilleuse prière que vous avez au verset 23e. Que le Dieu de paix, vous pourriez chercher à travers toute l'Écriture, tout ce que Dieu est, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de paix, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de bonté, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et là, nous avons une définition de l'homme tout entier. On est formé de quoi? De l'esprit, de l'âme et du corps. Et j'ai cherché à donner un exposé le plus clair possible sur l'homme tout entier, qui est une unité, mais en même temps une trinité, car on est formé à l'image de Dieu. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est la partie supérieure de notre être par laquelle nous communiquons avec le monde invisible. Dieu est esprit. C'est avec notre esprit que Dieu communique. L'âme, c'est notre personnalité. L'âme, c'est le moi. C'est nos sentiments, nos émotions, notre intelligence, notre volonté, tout cela. Ce qui forme notre personnalité, c'est du domaine de l'âme, et puis le corps est le vase qui contient l'âme et l'esprit. Donc, chaque domaine est clairement dépeint. Dans l'esprit, il y a le sentiment de Dieu, dans l'âme, il y a le sentiment de soi, et dans le corps, qu'est-ce que nous avons? Les sens. Nous avons les 5 sens dans le corps. Mais selon Dieu, selon la pensée de Dieu, qu'est-ce qui devait dominer l'homme? C'était l'esprit. L'esprit uni à l'esprit de Dieu, était éclairé, illuminé, et dirigeait l'âme, c'est-à-dire l'intellect, notre conscience et tout cela, tout ce qui forme notre personnalité, était sous la direction de l'esprit, et le corps, avec les sens, était le serviteur. On n'était pas asservi au sens, mais les sens étaient serviteurs de l'âme, guidés par l'esprit. Et quand l'homme s'est séparé de Dieu, qu'est-ce qui a été interrompu? C'était coupé avec Dieu, l'esprit est tombé dans la nuit, dans la mort, dans les ténèbres. Et alors, ce qui s'est produit, c'est que le corps est devenu le maître de la maison humaine et on a été asservi au sens. La volonté, l'intelligence, regardez, il y a des gens extrêmement intelligents, mais quand ils font une invention, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est de l'employer pour le mal, alors que tout devrait être employé pour le bien. Mais maintenant, l'homme est dominé par en bas. Et vous savez, il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur la préparation psychologique pour recevoir cet homme de péché qui est appelé la bête. On est en train, avec la télévision, de préparer toute la jeune génération à avoir que des bêtes. C'est la bête partout, les bêtes parlent, etc. Et il y a une préparation psychologique. Nous entrons dans la période qui précède justement l'apparition de la bête. Et on nous habitue à cela. Oh, nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours, acceptez cette exhortation de ma part. Mais nous pouvons échapper à tout cela quand on est au Seigneur. Le Seigneur va dominer notre esprit. Quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient régénérer notre esprit et l'Esprit redevient le maître de la maison. Et c'est lui qui influence maintenant notre intelligence, notre volonté, toutes les puissances de l'âme et soumet nos sens à la direction d'en haut. Le diable, il nous domine toujours par en bas. Hein? Dieu nous domine toujours par en haut. Eh bien, méditez sur ces choses et vous serez bénis. Et croyez que l'œuvre du Seigneur, c'est de perfectionner lui-même votre esprit, votre âme et votre corps. Bien sûr, quand le corps meurt, le corps va dans la poussière, mais l'âme, nous ne croyons pas au sommeil de l'âme. Nous croyons au sommeil du corps qui est dans la poussière, mais l'âme, elle jouit du Seigneur. Elle n'est pas endormie. On s'endort en lui, dans le Seigneur, mais on jouit de sa présence. Car Paul le dit, être avec Christ quand il pense à mourir, c'est de beaucoup le meilleur. Être auprès de Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Absent du corps, présent avec le Seigneur. Présent avec le Seigneur. Eh bien, que Dieu vous conduise et qu'il vous donne maintenant la soif d'en savoir davantage, non pas par moi, mais par sa parole, et que vous puissiez lui faire confiance pour tout ce qu'il va faire, mais nous présenter un jour devant lui, irréprochable. Celui, verset 24, qui vous a appelé, il nous a appelé à quoi? À la gloire éternelle. Dit les fidèles. Et c'est lui qui le fera. Ne regardez pas à vous et à vos expériences passées en vous disant, ben, ça ne va pas marcher. Je me connais trop. Non, tu ne connais pas encore assez. Ça aurait fini avec toi. Alors, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Je lui fais éperdument confiance et je lui dis, tu l'as dit, Seigneur. C'est pas possible que tu ne le réalises pas. Prenez-le au mot. N'ayez pas peur de le prendre au mot. Mettez-moi à l'épreuve, dit Malachie, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Mais la plupart du temps, on va à Dieu au dernier moment. On a essayé tous les moyens, Puisqu'on n'y a plus de moyens, alors on se souvient que Dieu pourrait peut-être faire quelque chose. On a perdu tout notre temps, tout notre argent. Pourquoi ne pas aller tout de suite à Dieu? Priez sans cesse, voilà notre conduite. Mes bien-aimés, je vous dis tout cela. Ma femme vient de prier avec moi, elle m'a demandé que je vous parle avec amour. Bien, j'espère que vous croyez que je vous parle avec amour. Même si j'ai des paroles quelquefois fortes, nous vous aimons de tout notre cœur. Et si nous avons ces rencontres, c'est par amour pour le Seigneur et par amour pour vous tous qui êtes les créatures chéries, bénies du Seigneur. Alors, soyez sûrs que le Seigneur vous aime, il vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est pas des exceptions, des quiconques, n'est-ce pas? Quiconque croit en lui ne périsse pas. Alors, si c'est cela que Dieu veut, vous ne périrez pas. C'est clair. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, priez, frères, pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je me souviens, dans certains pays, on nous en donne trois. Il y en a un frère qui avait un peu marre de trois baisers. Il a dit, dans l'écriture, il a dit un saint baiser. Même en Belgique, on en donne trois, ou je ne sais pas dans quel autre pays. Un saint baiser. C'est peut-être plus hygiénique. En tout cas, vous avez ici. Hein. Et puis, dans d'autres passages, il est dit un saint baiser. Mais on a deux joues, alors. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Eh bien, voilà la fin de cette merveilleuse épître. Maintenant, c'est à vous.